C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors hier, quand on a parlé pour la première fois de ce qu'on peut appeler l'affaire Will Prosper, Luc t'avait dit il va devoir sortir rapidement, puis il faut qu'il donne sa version, puis il faut qu'il s'explique. Ça s'est fait hier en fin d'après-midi. On va faire un petit tour de table rapide. T'as pensé quoi de la sortie?
Mais j'ai trouvé que c'était défensif. J'aurais voulu que ça soit que ça puisse permettre à Will Prosper d'exprimer sa volonté de bien faire. Et non pas de volonté. Parce que, tu sais, il y a deux possibilités. Soit c'est le gars qui a le même discours que Woodstock, tout est de la faute de la police, tout le système est pourri. Ou alors, c'est ce qu'on a entendu dans la première conférence de presse, c'est on va travailler avec le système, on va essayer d'améliorer, je suis là pour changer les choses, je vais être bruyant, je vais être radical, mais je vais changer les choses, je vais me servir des ressources qui sont disponibles. Ça, c'est deux discours différents. Et hier, on n'a pas entendu le discours positif. J'aurais voulu entendre le discours positif. Moi, je disais, regarde, c'est vrai, il y a peut-être des policiers qui se méfient de moi maintenant à cause de ce qui s'est passé. Je les comprendrai, je vais aller à leur rencontre, je vais discuter avec eux, je vais discuter avec les gens du poste 39. Ce genre de discours rassembleur, c'est pas ce qu'on a entendu. Mais il y a encore le temps pour le faire peut-être, mais c'était une belle occasion manquée.
Il a reconnu qu'il y avait comme une grave erreur, ça il l'a dit, mais tu as raison, Luc, 100% défensif. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, là, c'est que tout ça aurait pu être évité si des gens dans l'entourage de la mairesse, candidate à la mairie de Montréal, avait pris le soin de parler à Will Prosper sur son passé. C'est dans les partis politiques, généralement, on fait deux choses. On commande des enquêtes de sécurité sur les candidats ou candidates et on les questionne, effectivement, est-ce que vous avez des squelettes dans le placard? De toute évidence, ça n'a pas été fait. En tout cas, je présume que ça n'a pas été fait. L'autre chose, ce qui me laisse croire que cette histoire-là n'est pas terminée, c'est la réaction de la police de Montréal. Sous le couvert de l'anonymat, des policiers se sont confiés au Journal de Montréal pour dire « ça passe pas, là. Ça ne passe pas, le geste qu'il a commis. »
Alors, je pense... Mais d'abord, c'est un acte criminel. Faut juste rappeler ça, là. Ça, c'est Puis ce matin, on a fait une petite recherche, là. D'aller dans l'ordinateur d'une banque de données qui contient des renseignements criminels, là, sans avoir à le faire, c'est un acte criminel punissable d'une peine de 10 ans de prison. Ça, c'est la première chose. Et le traitement est très variable au Québec. Là, j'ai des cas là, récents. Là, policier de Gatineau congédié pour avoir fait ça. Dans d'autres cas, ça a été une accusation au criminel, formelle. La police de Montréal est smooth sur ces questions-là. La presse, 5 mars 2017, consultation illégale de renseignement, 15 policiers sanctionnés depuis 2008. Des jours de suspension seulement. Fait que tu comprends, à Laval, ils peuvent te mettre dehors, à Gatineau, et bon, Montréal, c'est plus tranquille. Et ce que ça donne comme impression, c'est que la GRC a dit, gabin, là, tu démissionnes ou ben donc on t'accuse au criminel.
Oui, c'est clair.
Puis l'autre question, c'est, OK, il consulte la banque, il appelle un gars associé au gang de rue qui fait l'objet d'une enquête, il dit quoi?
Est-ce que j'ai compris que la discussion avait duré 90 minutes?
Ben, je sais pas la durée, mais c'est comme tout de suite après, là.
OK. Moi, j'ai pas beaucoup aimé... Bon, écoute, moi, j'ai pris la défense de Will hier en disant... Will Prosper en disant... Il y a pas beaucoup de gens passionnés en politique. Ça nous manque énormément. Et puis, lui, il est passionné. S'il arrive à canaliser toute la colère qu'il y a eu ces dernières années, puis toute la déception qu'il a envers le système, s'il arrive à canaliser ça en énergie positive, ça va être formidable. Puis on a besoin d'un gars comme ça. Mais j'aime pas lire ce matin dans les journaux un truc que j'ai lu. Yann Letourneau, qui est de la maison de production Périphérie, Sophie Durocher l'a appelé pour lui dire qu'est-ce qui va se passer avec le film, les fonds, etc. Parce que bon, il y a quand même eu des histoires où, par exemple, avec Marie-Pierre Morin, lorsque elle a été accusée de différentes choses, on l'a retiré les fonds, on l'a retiré de l'avant-scène. Et là, elle lui a posé, est-ce que ça va être la même chose pour Will Prosper? Puis lui a dit, toute cette affaire, c'est du racisme systémique. Ben là, comment? Là, regarde. Là, moi, je tends la main. Il y a plein de monde. Il y a plein de gens qui ont eu des actes, des jugements mesurés en disant, ah oui, mais à ce gars-là, il veut. Puis, alors, ça peut pas être ça le dialogue. Là. Non, ça peut pas être, c'est du racisme systémique. Là, non, ça peut pas
parce
être
parce qu'il n'y a pas de dialogue possible quand tu sors ça comme argument. En passant, nuance, Marie-Pierre Morin n'a jamais été accusée. Là,
oui, effectivement.
Allégation.
Effectivement.
Je nuance. Mais l'argument de la mairesse, dans le cas de Will Prosper, c'est de dire, donnons-lui une deuxième chance.
Oui, mais les électeurs vont décider. C'est-à-dire, en bout de ligne, c'est ça qui arrive.
Je ne suis pas certaine, moi, Paul, que les électeurs vont voter pour Will Prosper parce que mon sentiment, c'est que l'affaire n'est pas terminée. Et deux, le fait que la police, les policiers, certains policiers du
SPVM... Mais son programme sur la police, à la base, ne peut pas faire plaisir à la police. Là.
Je suis d'accord, sauf
quand
que...
Quand il parle de couper le financement, ouais, quand il parle que c'est un paquet de troubles... Puis
ouais,
que,
ouais. Mais pour la mairesse, ça risque d'être ça risque de devenir une très, très grosse distraction, selon moi.
Moi, je suis persuadé que... dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va se retirer. Moi, je pense ça. C'est mon impression personnelle. Là, c'est juste une intuition.
Absolument.
Parce que le poids est trop lourd. Ceci étant dit, j'entendais hier des gens dire qu'il y a une grosse mobilisation derrière lui et puis que ça pourrait se transformer en positif. Tu l'avais même évoqué, toi.
Ouais.
Et donc... excuse-moi, c'est Annie Sanson.
Ouais.
Mais,
tu confonds les Nathalie et les Annie.
Ben oui, c'est ça. Excuse-moi. Mais qu'il y a une grosse mobilisation derrière lui, que ça va peut-être aider des gens à devenir bénévoles, à aller faire sortir le vote qui ne sort pas facilement.
Okay. Bon, le tribunal spécialisé pour les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles, là, ça a l'air un consensus en disant que c'est un beau projet et il était nécessaire. Nathalie.
Oui, ben tout d'abord, il y a peu de voix discordantes actuellement entourant cette initiative. Bon, c'est bien, on veut redonner confiance aux victimes, puis on l'a dit là souvent, là, c'est le parcours du combattant pour une femme, par exemple, qui souhaite déposer une plainte, autant auprès des policiers que de tout le processus qu'elle aura traversé devant le tribunal. Moi, cependant, je souhaiterais dire que j'espère que la mise en place éventuelle, parce qu'il y a beaucoup de défis, des tribunaux spécialisés, ne nous conduira pas à faire des compromis sur la présomption d'innocence. Je me mets la peau d'un juge qui aura à livrer une décision dans le cadre d'une cause d'agression sexuelle. Il siège sur un tribunal, au tribunal spécialisé. Je peux déjà imaginer toute la pression qu'un juge va avoir pour livrer un verdict de culpabilité. D'ailleurs, on dit tribunaux spécialisés, oui, pour accélérer ou pour diminuer les délais, mais j'espère qu'on ne se retrouvera pas avec une justice à rabais, c'est-à-dire qu'il y aura automatiquement des condamnations, puis qu'on tournera les coins ronds par rapport à la preuve qu'on doit démontrer pour effectivement convaincre le juge qu'il y a un crime qui a été commis.
Moi aussi, je me réjouis, puis tout le monde se réjouit, puis je regarde les partis d'opposition aussi, c'est bon signe, hein, qui vont d'habitude dans les détails, mais on n'a pas encore les détails de l'implantation. Alors, quels vont être les détails de l'implantation? Je rappelle que les agressions sexuelles représentent 2% des crimes qui sont commis au Québec, 2 à 3%, un peu plus que 2, des crimes qui sont commis au Québec. Si la question des ressources se pose, parce que on a vu l'arrêt Jordan, on a vu des cas qui sont reportés ad vitam aeternam, on a vu une justice qui peine à traiter correctement les victimes dans plein de domaines. Là, est-ce qu'on va faire des tribunaux spécialisés? Ça va être très difficile de faire un tribunal spécialisé partout en région, avec du personnel spécialisé, avec de la formation en amont, avec des services intégrés verticalement, c'est-à-dire les policiers, les services sociaux, les juges, les avocats, tout le monde, et il n'y a pas un magasinage de la victime d'une personne à l'autre, il faut qu'elle raconte son histoire 25 fois, il y a une entrée unique, puis il y a un partage du dossier. Tout ça, ça coûte quelque chose. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. J'entendais hier représentantes de la cause des femmes au Québec qui disaient « on a besoin d'un tribunal physiquement séparé ».
Ouais.
Dans tout le Québec, ça peut pas. Je pense pas que ça va se faire. Je pense pas qu'il va y avoir un tribunal. Je pense que ça va être. Parfois, le tribunal va se transformer sur place en tribunal spécialisé. Mais c'est difficile d'imaginer qu'on va construire des installations séparées partout au Québec, avec du personnel séparé, avec des juges séparés, avec des procureurs séparés. J'ai hâte de voir les détails.
Je suis d'accord avec toi. Par exemple, en Espagne, les tribunaux pénaux spécialisés en violence conjugale, il y en a 33. Ils siègent 7 jours sur 7. Est-ce qu'on pourrait imaginer que nos tribunaux spécialisés en violence conjugale et agression sexuelle siègent 7 jours sur 7? Enfin, poser la question, c'est un peu répondre. Mais l'autre élément qui me préoccupe, c'est dans le quotidien, là, une femme qui vit de la violence conjugale, là, en amont de cette décision, ça va faire une différence dans son sentiment de sécurité? Tu peux bien avoir...
C'est important, question.
C'est la question. Oui. Tu peux avoir le tribunal spécialisé, mais ton ex qui continue de te harceler, là, puis qui veut s'en prendre à toi physiquement, là, quelles ressources on va mettre en place ou quels moyens on va mettre en place pour éviter que cette femme-là se retrouve dans la liste des statistiques du Xème féminicide?
Et quelles ressources on va mettre en place au Nunavut parce que
Première Nation Inuit aussi, t'as
donc
raison,
là,
ça, c'est un autre enjeu.
C'est des villages isolés les uns des autres,
tout à fait,
à des centaines de kilomètres, et c'est 30 à 40 % des cas, c'est parfois certaines années 50 % des cas de féminicide. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Comment ça va aboutir? Ouais. Comment ça va atterrir?
En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a c'est un pas important de cette réforme qu'on souhaite mettre en place. L'écosystème, hein, c'est un mot à la mode, là, qu'on veut mettre en place pour accompagner davantage les femmes victimes d'agressions sexuelles ou les hommes et les femmes victimes de violences conjugales. Mais il faut pas oublier en amont de tout ça, là, les organismes communautaires souvent crient famine parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour accompagner les victimes ou les femmes qui se retrouvent dans des...
Mais ce que tu soulignes, là, la période avant la procédure devant le tribunal, il y a un policier qui m'a écrit ce matin, prends deux secondes,
oui,
qui dit la chose suivante. Puis là, c'est un cas qu'il a vécu, lui-là, là. On a un appel 911, un homme qui étrangle sa femme, la frappe au visage, les blessures sont apparentes, il est arrêté, et la loi, les dispositions de la loi actuelle font que quand il me mentionne qu'il va s'en aller chez son frère qui habite dans l'ouest de l'île, on doit le remettre en liberté.
Mais c'est ça qui fonctionne
mais
pas.
Mais tu dis, quelle sorte de message t'envoies à la femme qui a porté plainte, un, puis dit, t'as beau dire qu'il y a une ordonnance puis qu'il peut pas l'approcher.
Ça, c'est une directive. C'est juste une directive légale.
C'est la loi.
C'est la loi.
Fait que là, la question qui se pose, c'est en quoi le tribunal spécialisé, la mise en place du tribunal change? En quoi ça change la vie de cette femme-là, de cette, quoi, c'est épouvantable. Moi, je dis vivement, tu sais, les 810, là, ça, on sait que ça fonctionne pas, là, ou presque pas. Le bracelet, là, on mène des projets pilotes actuellement. Je sais pas où est-ce qu'on en est. Le fameux bracelet, oui, là, oui, qui te permet de géolocaliser ton agresseur ou ton ex-conjoint qui s'en prend à toi, là. Ben, vivement l'implantation au Québec, ce type de mesures pour protéger davantage les femmes et les enfants des femmes aussi, parce qu'il faut pas les oublier.
Pause. C'est vendredi. C'est le moment du rapport des commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, vendredi, rapport des commissaires. Luc, tu commences.
L'affaire Pascal Nadeau.
Oui.
Moi, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Quand on dit tolérance zéro, dorénavant, il faut lire intelligence zéro. Parce que tu peux pas, un slogan peut pas remplacer une capacité de gestion. Un slogan peut pas remplacer un jugement personnel d'une équipe de direction, puis d'une équipe de direction élaborée. Là, je parle qui va du directeur jusqu'aux les ressources humaines, des directrices, ressources humaines, etc. Puis tous ces gens-là ont décidé de ne pas exercer leur jugement, puis de se fier à un slogan qui va jusqu'à dire, pour être sûr que vous allez être neutre, pour être sûr que vous puissiez pas vous servir de votre propre intelligence, on va le confier à une firme externe qui est pas sur place, puis qui, elle, va prendre la décision de savoir s'il y a eu harcèlement ou pas de la bonne gestion. L'inverse de la bonne gestion, c'est d'avoir un petit peu d'intelligence du passé, de compréhension de ce qui se passe, de tenir compte des avis des gens qui nous entourent, puis pas de juste se fier. Et ça part de où? Ça part du politique. Ça vient du politique, cette idée de tolérance zéro, puis ça va être, vous, on vous fait pas confiance, la direction, on vous fait pas confiance, vous allez appliquer des règles telles qu'on les a écoutées, parce que moi, je veux pas me ramasser en Chambre des communes avec un article de journal qui dit que Pascal Nadeau allait engueuler un employé le matin. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est un gros...
Il y a des gens qui nous disent que depuis l'affaire Gomeshi, tu sais, qui était gars à Radio-Canada, puis que Radio-Canada avait été blâmé d'avoir toléré, que tout est maintenant centralisé, que les politiques sont faites à Toronto, les procédures, puis voici, à la moindre chose... Page 27.
C'est tellement logique, je n'avais pas pensé. Écoute, mais c'est exactement vrai. Mais c'est vrai, parce que pendant des années, ils ont fermé les yeux. Fait que là, ils m'ont dit, vous, on vous fait plus confiance, là. Parce que quand vous êtes devant une vedette, fermez les yeux, ben, ça ne marchera pas comme ça. Dorénavant, vous n'exercez plus votre propre jugement. Mais ça donne ça à l'inverse. L'autre côté de la médaille.
C'est ton seul.
Non, j'en ai plein d'autres, mais OK, j'ai donné tout, OK.
Vas-y.
L'autre affaire. Trudeau Renard Futé.
Parce que c'est un compliment, ça.
Ah oui, c'est son nouveau code scout. Parce que son idée de dire que les fonctionnaires vont devoir se faire vacciner de façon obligatoire quand il va revenir de l'élection, c'est pour mettre tout de suite... Il aurait pu attendre le retour de l'élection si c'est pour après l'élection. Non, c'est pour mettre dans le trouble, l'embarras, les conservateurs qui ont encore de 16 à 20 % de gens qui croient pas à la vaccination, puis il peut pas faire des déclarations aussi fortes que celles de Trudeau sur la vaccination. Alors, Trudeau, Renard Futé. Mais Trudeau, poche percée aussi. Parce que... Ben oui, parce que...
Ça rime à part ça.
Ben oui, mais sa maudite affaire, cette élection-là... Quand même, on la prend comme un divertissement quotidien, mais à 600 millions, hein, qui en suit une de 500 millions, 1 milliard, 1 cent, comme si les milliards n'avaient plus d'importance. mais aussi Trudeau, dernier rempart de la raison. Parce que c'est le seul, tu sais, c'est la, son refus, alors qu'il pitche l'argent par les fenêtres avec des ventilateurs, à poignée, ça suffit pas, tu sais, il met des poches d'argent dans les ventilateurs, puis il ouvre les fenêtres, ah ouais, mais pas d'argent pour le troisième lien. Ah, vois-tu? Ah, dernier rempart. Il refuse, même dans les circonstances actuelles.
Ça doit te réjouir quand même.
Ah non, mais là, écoute, moi, j'y ai fait une petite effigie de Trudeau dans ma chambre avec des chandelles autour. Résiste, prouve que tu existes.
C'est drôle. C'est bon. Alors, moi, catégorie mettre la charrue avant les bœufs, ben, la nouvelle cible de 95% de la santé publique quant au taux de vaccination. Chiffre évoqué par notre bon docteur Arruda, alors qu'il n'y a pas de plan, pas d'échéancier. On ne sait pas comment on va y arriver. Assez particulier. Le prix orange, pour moi, cette semaine, va au juge Pierre Labelle, la Cour du Québec, pour la sentence de 18 ans dans le dossier de Sylvain Villemer. Quelle histoire, une histoire incroyable. Moi, j'ai pas de mots là, pour définir ce type d'individu qui a exploité, qui a acheté une petite fille de 8 ans. Puis ce qui me fascine, c'est comment ce type-là a pu entrer au Canada. Tu le disais en nombre.
Avec le visa, là.
Un visa étudiant.
Je comprends pas.
Écoute, un visa étudiant, la petite a 8 ans, là. 8 ans.
Je te le dis, je ne sais pas.
Quand tu sais ce que les douaniers font, tu sais, écoute, tu vas à Cayo Coco, là, tu rapportes un bracelet en coquelicot, là, puis il fouille ton bagage. Je veux dire, pour n'importe quoi, il fouille tes bagages. C'est le parcours du combattant pour adopter un enfant à l'international. Puis le gars, toi, il rentre avec une petite fille de 8 ans qui n'a aucun lien de parenté avec lui, qui a acheté.
Et la police l'a trouvé par hasard. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'ils l'ont arrêté dans une saisie de matériel pornographique.
Ah, mon Dieu.
C'est en fouillant qu'ils ont trouvé la petite. Je veux dire,
elle a quel âge aujourd'hui?
13 ans.
13 ans, oui, ouais. C'est ça, absolument. Ouais. Et dernière catégorie, comme la chanson, le début d'un temps nouveau, bien évidemment, l'annonce du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, pour la création des tribunaux spécialisés, on en a parlé tantôt, pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. J'ai dit le début d'un temps nouveau parce qu'il y a énormément d'espoir entourant cette annonce, en espérant que les bottines suivent les babines. Mais là, le gouvernement s'est mis les bras dans le tordeur. D'après moi, ça va être difficile d'en sortir.
Merci. Bon week-end à tous les deux. On vous retrouve lundi matin. Il est 9h03.
C'est